Héloïse.
Alpha.
Pamplune.
Léa.
Rachel.
Isaac.
Lou.
Inès.
Noah.
Isaac. Avec un C.
À la jeunesse. À la jeunesse.
Les micros.
Making Waves, Avignon, présente...
À la jeunesse.
Les micros.
En direct du Festival d'Avignon.
Les micros.
Les micros.
Les micros.
À la jeunesse. Les micros.
C'est censé nous rendre heureux de pouvoir demander à l'IA comment réparer la cafetière. C'est censé nous rendre heureux d'offrir nos données à chaque fois qu'on utilise Internet. C'est censé nous rendre heureux de s'enterrer dans le travail jusqu'à ce qu'on ne soit plus assez performant. Est-ce que c'est normal de voir notre planète cramer depuis nos téléphones qui eux-mêmes contribuent à l'abîmer ? J'ai l'impression que ça fait bien longtemps que l'anxiété surpasse l'excitation du lendemain, qu'on voit nos espoirs se briser et qu'on se retrouve juste épuisé. Avec l'arrivée d'Internet et des nouvelles technologies, les médias de masse et l'hyperexposition à tous les problèmes sociétaux, avec les attentats, les guerres, les génocides, l'urgence climatique, le Covid, la montée du fascisme et du racisme, il n'y a pas un jour où je pleure pas devant mon téléphone en tombant sur des actualités. Est-ce que c'est parce que je suis impuissante face à tout ça ? Est-ce que c'est parce que c'est à la fois très proche et très loin de moi ? Est-ce que je suis la seule à encore pleurer devant toutes ces infos ou à pas pouvoir y être indifférente ? Est-ce qu'il est préférable de continuer à pleurer ou est-ce que je devrais détourner le regard ? Est-ce qu'il y a d'autres options pour tenir debout dans un monde qui épuise ?
À la jeunesse,
les micros !
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette troisième émission de À la jeunesse, les micros. On peut presque parler d'une épidémie de mal-être pour les jeunes de ma génération. Selon la Fédération hospitalière de France, la génération la plus touchée par les troubles anxieux, c'est les 18-24 ans et particulièrement les femmes. Depuis 2019, le nombre de troubles anxieux diagnostiqués a doublé chez les jeunes de 20 à 24 ans. Le nombre d'hospitalisations pour tentative de suicide chez les jeunes ont aussi explosé en 5 ans. Est-ce que toutes ces angoisses ne viendraient pas du décalage entre la vie qu'on nous avait promis et celle qu'on doit vivre ? Comment tenir debout face à ces désillusions ? Pour nous aider à y répondre, on va retrouver dans quelques minutes deux invités au plateau. Hortense Archambault, directrice de l'AMC 93, une scène incontournable à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, et Thibaut Perrenoux, metteur en scène qui présente Hamlet cette année au Festival d'Avignon. Je suis super contente d'être avec vous. On est en direct du cloître Saint-Louis, au cœur de cette 80e édition du Festival d'Avignon. Et je suis avec Alpha.
Hey.
Pamplune.
Bonjour.
Lou Sarah.
Salut.
Et un pigeon qui s'est incrusté sur le plateau. Moi, j'ai un peu l'impression que chaque génération a ses désillusions, mais que pour la nôtre, c'est quand même particulièrement sale. Est-ce que vous, autour de la table, arrivé à l'âge adulte, vous l'avez vécu comme un désenchantement ? Est-ce que c'est ton cas, Alpha ?
Bah, pour te donner un exemple, quand j'étais petit, j'adorais la Star Academy. Jennifer, au soleil, j'imaginais tellement sur scène, avec mes danseurs, vraiment avoir ma troupe, trop trop bien. Et c'est vrai que plus le temps passe, maintenant j'adore toujours faire de la musique, ça n'a pas changé, mais vraiment pour moi, c'est vraiment mon jardin secret. C'est plus ce rapport-là qui a changé. Avant je voulais faire de la musique pour toucher un maximum de personnes, qu'on se dit « mais attends, c'est sa chanson et tout !» Et en fait non, maintenant j'ai juste envie de le faire... pour moi.
Et toi, Lou ?
Je vais plomber l'ambiance. Perso, j'avais peur de la mort, surtout voir mes proches mourir, surtout que j'ai été confrontée très tôt au deuil. Mais maintenant, je me rends compte que c'est une chance de vieillir, de vivre plein d'expériences, et je sais que, où que soient mes proches, ils seront toujours présents à mes côtés.
Pamplune ?
Moi, j'ai toujours été super angoissée par les impôts. Assez cliché, mais depuis gosse, j'imaginais qu'à mes 18 ans, les impôts, ils allaient arriver dans ma boîte aux lettres, et que vu que je savais pas les remplir, bah, j'allais finir en prison. Je voyais un peu l'État comme le grand méchant loup. Puis j'ai eu 18 ans, et je me suis rendu compte que l'État, c'était pire que le grand méchant loup, mais vu que j'ai dû remplir mon dossier de bourse pour le Crous, j'ai plus peur des impôts.
À la jeunesse ! À la jeunesse !
Les migrants !
Nos invités, ils sont en train de nous rejoindre au plateau. Bienvenue.
Bonjour Thibaut, vous êtes comédien et metteur en scène. Et cette année, vous présentez Hamlet au Festival d'Avignon. C'est aussi la première création portée par votre propre compagnie. Merci d'être avec nous. Vous allez bien ?
Ça va bien, oui. Oui, merci. Merci beaucoup.
Bonjour Hortense.
Bonjour.
Vous connaissez très très bien le Festival d'Avignon, dont vous avez été la directrice pendant 10 ans, aux côtés de Vincent Baudrier. Et depuis 2015, vous dirigez la MC 93, la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis. Et vous avez également présidé pendant 3 ans l'Association des Scènes Nationales. Et c'est trop bien de vous avoir avec nous, donc merci beaucoup.
Merci à vous.
Est-ce que vous allez bien ?
Est-ce que je vais bien ? D'un côté oui, d'un côté non. D'un côté oui, j'essaye d'aller bien dans ma vie, dans la relation que j'ai avec les gens. Et d'un côté non, parce qu'effectivement le monde va quand même pas bien du tout.
Complètement.
Et donc voilà, on n'est pas étanche au monde.
Tout à fait, ben, justement on en parlait en introduction avec les amis. Et quand on est enfant, On a cette image que les adultes, ils savent où ils vont, qu'ils ont trouvé leur place. Et en grandissant, on se rend compte que la réalité, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Il y a des crises, il y a des doutes. Et comme vous venez de dire, le monde semble aller de plus en plus mal, ce qui n'est pas très, très rassurant. Et je voulais vous demander, est-ce que vous avez également vécu cette désillusion de passer de l'âge, on va dire, jeune adolescent à l'âge adulte ?
Personnellement, j'avais envie de devenir adulte, en fait. Moi, j'ai toujours eu envie. Et puis, je trouve que ce qui est formidable, c'est de justement avoir des doutes et de pouvoir essayer de grandir, de continuer d'apprendre des choses, de se remettre en question. Et toute la difficulté, c'est de trouver un équilibre intérieur qui permet justement, face à ces doutes, d'en faire une énergie qui nous fait avancer et pas de se faire juste écraser, en fait. Donc le doute, c'est une chose qui me semble positive. Et en fait, de ne pas savoir, je trouve ça plutôt une chose merveilleuse. Et je crois qu'il faut juste rester un adulte qui ne sait pas.
C'est vrai que ça peut être assez surprenant, puisqu'on a quand même des attentes assez hautes, parce qu'on a hâte d'être adulte. Et tous ces doutes qui arrivent en pleine face, parfois on ne s'y attend absolument pas. Donc c'est pas toujours évident de les gérer.
Non, mais la vie n'est pas évidente. Mais en même temps, c'est ça qui fait qu'elle est intéressante.
Tout à fait. Et de votre côté, Thibaut, est-ce que vous avez aussi vécu cette désillusion de passer de l'âge un peu adolescent à l'âge adulte ?
Alors, très concrètement, au moment de mon passage de l'adolescence à l'âge adulte, oui, j'ai traversé une crise assez importante, existentielle. Alors, je ne sais pas par rapport à ce que vous racontiez au départ de l'émission, mais ça a beau être il y a à peu près maintenant plus de 20 ans, 25 ans. Ça a été très violent, en fait, ce passage juste après le bac, pendant 3 ans, où, oui, une vraie crise existentielle. Ce n'est pas simple, en fait, de devenir adulte. Je ne sais pas si je le suis déjà devenu ou pas encore. J'essaie de le plus possible d'y travailler. Mais oui, ça a été quelque chose, parce que le temps devient différent, voilà, il y a quelque chose qui mue. Voilà.
C'est une toute nouvelle réalité à laquelle on ne s'attend pas forcément, j'ai l'impression.
Non, pas du tout, et c'est assez violent, mais ça construit, et puis ça a été bénéfique pour la suite en tout cas. Ça a été bénéfique parce qu'on se dit que, voilà, il y a quelque chose qui se dépose, et ensuite on comprend que ça ne va pas être si simple. Il y a des choses qui deviennent très... On n'est plus dans nos illusions, on n'est plus dans ce monde finalement innocent, ouais, de bisounours, et puis on se rend compte que l'existence elle-même est difficile. Alors, on parle du monde, on parle de ce qui se passe en ce moment, évidemment, mais la vie en soi déjà, oui, il y a quelque chose de violent, mais effectivement d'intéressant, quoi.
Merci. Non, c'est important aussi. Enfin, je trouve que c'est bien d'avoir votre recul. Ça nous aide aussi, on va dire, à, je ne sais pas si décompresser, c'est le bon mot, mais avoir une autre vision et avoir la vision d'une autre génération, c'est aussi important.
Merci. Et vous, Hortense, qui êtes régulièrement et depuis un certain temps en contact avec les jeunes, est-ce que vous avez perçu une évolution concernant leur santé mentale ?
Oui, je pense qu'effectivement, vous êtes une génération qui a subi des transformations sans que, au fond, on sait qu'on bouge, mais on ne sait pas vers où on va. Donc forcément, c'est une anxiété énorme, que ce soit sur le climat, sur la politique, sur aussi les représentations du monde, des genres, la question multiculturelle. Enfin, il y a énormément de choses à déconstruire et du coup à reconstruire. Mais comme on est dans la phase un peu de déconstruction, c'est comme si la possibilité de reconstruire n'était pas évidente. Donc oui, il y a beaucoup de souffrance dans notre génération. Et puis en plus, franchement, économiquement, les choix politiques qui ont été faits n'ont pas aidé à ce que vous alliez bien.
Ça, c'est clair. Mais du coup, est-ce que vous pensez que notre génération, elle est épuisée parce qu'on vit trop d'échecs ou parce qu'on a grandi avec trop de promesses ? Hortense ?
Moi, j'ai pas l'impression que vous avez grandi avec beaucoup de promesses quand même. Hein. Enfin, je sais pas quel âge vous avez, mais j'imagine que vous aviez... Enfin, les problèmes qui sont les vôtres et auxquels vous faites face, c'est des problèmes qui sont apparus il y a 20, 25 ans et qu'on n'a pas vraiment réussi à appréhender.
C'était des problèmes qui étaient plutôt tabous, notamment là, le plus parlant, c'est le réchauffement climatique, on le voit avec la chaleur. Oui, on en parle depuis des années, mais c'était quelque chose dont on parlait pas quotidiennement et dont on nous a... Enfin, pas cacher l'existence, mais on nous disait non, ça n'existe pas, c'est pas de notre faute. Donc on était vraiment un peu dorloté, enfin, dans une ignorance.
On nous disait qu'il suffisait de recycler pour que la planète elle aille bien, etc. Depuis la maternelle, on nous apprend à recycler l'environnement, etc. Et comme si, en fait, ça reposait tout sur nous, alors qu'en fait, il n'y a pas que nous. Il y a des plus grands que nous et également, on ne va pas citer de nom, mais voilà. On nous a caché ça et c'est vrai que depuis quelque temps, on sait des choses qu'on ne savait pas avant et ça nous retombe tout dessus, en fait, pour tout le monde, je pense.
Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on partage, en fait. Il ne faut pas que ça soit vous. Je veux dire, même les questions historiques, les questions des empires, la question coloniale qu'on découvre aussi parce qu'on en parle de plus en plus. Enfin, il y a toute une série de choses... que peut-être on ne voyait pas ou qu'on ne voulait pas voir et que tout à coup maintenant elles sont sur la place publique, elles font l'objet de débats, de discussions. Et du coup à la fois c'est difficile à traverser, mais en même temps j'ai l'impression que ça permet de sortir d'une sorte de déni un peu collectif. Par contre, je trouve que c'est pas normal si vous avez l'impression que ça ne vous concerne que vous, parce qu'il faut vraiment qu'on prenne notre part aussi, quoi. Moi j'ai 55 ans, donc je suis plus vieille, mais beaucoup.
Pour justement rester dans cette thématique, Hamlet, c'est un jeune homme qui traverse des crises existentielles. On sait que son état psychologique n'est pas forcément très stable. Et je voulais vous demander pourquoi avoir pris cette décision de mettre en scène un jeune homme justement assez instable psychologiquement, alors que ça pourrait être tellement plus simple de mettre en avant quelqu'un finalement avec moins de problématiques.
Alors, je ne sais pas s'il est finalement si instable que ça. Il est instable, mais comme nous le sommes tous, j'ai l'impression. Ouais. Ce qui me touche profondément dans cette pièce, c'est que c'est un personnage donc, qui commence la pièce et très rapidement, il dit qu'il n'y arrive plus. Une de ses répliques au départ, c'est « Tout ce qu'on peut faire du monde me paraît fatigant, épuisant, périmé, fade et sans intérêt. » Burk, burk, burk. Donc, c'est un personnage qui baisse la garde en fait très rapidement. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir Hamlet, évidemment cette question de la folie, évidemment cette question de la mélancolie, de la dépression, mais j'arrive pas à le résumer à quelqu'un de fou. Puis déjà, il y a un autre personnage dans la pièce qui s'appelle Polonius qui dit « Je ne vais pas tenter de définir la folie, ce serait fou ». Je crois pas que Hamlet soit forcément fou, mais en tout cas, il traverse une crise ou un moment fou, en fait. À savoir que quand même, juste pour partir du postulat de départ de la pièce, il vient de perdre son père, donc il est quand même dans le deuil d'un parent, d'un proche qui lui est cher. Alors ça, quand ça nous arrive, ça paraît banal quand c'est dit comme ça, parce que ça arrive à tout le monde, mais quand ça nous arrive, c'est quelque chose de violent. Oui. Ensuite, sa mère se remarie très rapidement avec son oncle, et puis très rapidement, le fantôme de son père vient lui demander de... Enfin, lui apprend que c'est son oncle qui l'a assassiné, et il lui demande de le venger. Donc ça fait quand même trois événements très importants. On peut y faire des analogies avec ces événements pour tout le monde, mais je veux dire, ces trois événements qui le mettent quelque part. En fait, ce serait plus étonnant qu'il ne soit pas dans un moment de folie plutôt que le fait qu'il le soit, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Oui, complètement. Enfin, ça reste important en fait de représenter ça et de le mettre sur scène et de montrer qu'après un deuil, comme vous le dites, ça peut paraître quelque chose de banal, mais ça l'est pas. Et quand ça nous tombe dessus, c'est assez violent quand même.
Oui, bien sûr.
Merci beaucoup pour cette discussion. On va maintenant écouter Pamplune qui va nous partager un texte parce que là j'ai l'impression que t'es complètement dépassé, Pamplune.
À la jeunesse et les micros.
Les micros. Ils sont à qui?
Ils sont à qui?
Ils sont à nous.
Je suis dépassée par le temps. Dépassée par les événements, par les gens, les rangs, les rancunes, mes rancœurs. Dépassée par mes peurs, dépassée par les leurs. Dépassée par les autres, leurs envies d'ailleurs, d'ici et mes coups de cœur. Je suis dépassée par mes envies, mes avis, leurs avis. C'est la même qui empiète ma vie. Je suis dépassée par moi, l'immensité de ce jeu dont je ne connais que les rebords, à qui je devrais demander son avis d'abord, puis ensuite écouter celui des autres, mais non. Je fais ce dont j'ai tort et je passe par-dessus le bord de mes remords. Je suis d'ailleurs dépassée par mes torts, ceux des autres qui me hantent quand je dors, mes angoisses que je crie fort et la poisse sociale qui me suivra jusqu'à ma mort. Je suis dépassée, sentiment de passage qui à tous les virages me fait vomir en dépassant l'indépassable. Dépassé par l'immesurable, le grand, le petit, le misérable, je suis misérable. À être dépassé par tout ce qui passe à travers moi, dépassé par tout ce qui se passe en moi. Je suis également dépassé par ce monde qui sexualise, instrumentalise, objectifie, me pétrifie. Tous ces regards sur moi et ces pensées sales qui n'ont même pas besoin d'être prononcées pour que je me sente chose autre qu'à moi-même. Je ne suis pas sexuelle. Et pourtant, mon refus catégorique de ce qu'on m'impose comme fonction se heurte au mur de cette société qui nie mon identité. Pour prendre, toujours prendre de moi. Mais peut-être suis-je une femme ridicule. L'amour de l'avenir m'emporte et c'est contre le système que je m'emporte. Lui qui ne laisse que des miettes, marche sur moi et me laisse pantoise. Abasourdi par cet empiètement colossal de la pression sociale sur mes devoirs, le seul réel que j'ai est celui de guérir, de me servir. Muni de mes mots comme armes, je ne suis en réalité armée que de larmes. Alitée par ces obligations sous lesquelles je ploie et tente partout et pour tout d'absoudre ma soumission. Punition déboussolante, s'absoudre revient à s'attirer les foudres de ceux qui ne l'ont pas fait, s'enfoncer dans un gouffre froid d'angoisse et d'incertitude. Incertitude inévitable et incroyable, je suffoque, tous les yeux sur moi attendent que je trouve ma voie. Mais c'est justement ça, ma voie, de pas savoir et d'aimer ça. Ils me regardent comme une proie, attendent que je ploie, ils me broient de leur jugement, ils attendent que je tombe, que je retourne dans la cage. Plus rien ne m'ébranle. Branler, je connais bien trop ça, et depuis bien trop longtemps. Mais je ne branlerai plus, ne m'ébranlerai plus non plus. et ma voix portera pour toutes celles et ceux qu'on écrase.
À la jeunesse, mes micros.
Merci beaucoup, Pamplune. Dans notre première émission, Rebecca Chaillot nous interpellait sur les coupes budgétaires dans le secteur de la culture. On l'écoute.
Juste pour rappeler qu'actuellement, il y a des coupes budgétaires énormes dans le milieu de la culture, et si on veut encore pouvoir faire ce genre de projet, de festival, de spectacle, tout ça, là, tout est en danger. Voilà. C'est juste pour rappeler à tout le monde, si possible, d'aller signer la pétition du Syndéac, de faire du bruit, et de ne pas laisser l'État couper le budget encore et encore. Merci.
Hortense, vous qui dirigez la MC 93, comment concrètement les coupes budgétaires vous impactent ?
C'est énorme en fait, effectivement. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer ne permet plus de se projeter dans un modèle existant qui a été construit depuis 50 ans. Et donc il y a une véritable déconstruction de tout le service public du théâtre et de la danse et de la musique en France. Et du coup, concrètement, la MC 93 fait partie des 28 structures qui ont un surgel, c'est-à-dire qu'on a eu des coupes comme tout le monde au printemps, et là on a en fait une partie de la subvention qui est réservée et on ne sait pas si on va la toucher. Si effectivement on ne la touche pas, ça va nous obliger à repenser complètement ce qu'on est en train de faire à la MC 93 dans les deux ans qui viennent.
Et comment justement vous arrivez à tenir debout ? Vous êtes encore là en face de nous ?
En fait, je m'en fous. C'est terrible parce qu'au fond, si vous voulez, à un moment donné, quand vous avez des coupes qui ne vous permettent pas de les penser et de les intégrer, c'est-à-dire, moi je suis quelqu'un de responsable normalement, mais là, si vous voulez, par rapport à ce qui se passe, on ne peut pas être responsable en 2026. C'est la première fois que le budget de la culture est atteint à ce point et que est répercuté en cours d'année, en milieu d'année, sur les structures. Donc, bien sûr, je m'en fous pas et en même temps, je peux pas le penser, donc je le pense pas. Après, c'est intéressant parce que cette question de tenir debout, en fait, c'est tenir, moi, qui me... Je sais pas s'il faut qu'on tienne et s'il faut pas qu'on soit debout. Ça a l'air d'être une nuance, mais en fait, tenir, c'est un peu comme un truc où on doit être tendu. Et au fond, est-ce qu'il ne faut pas qu'on soit ? Et que peut-être que l'angoisse actuelle, c'est aussi que dans notre société occidentale. Et par exemple, quand on dirige un théâtre, on est tout le temps là à penser à 2-3 ans. Enfin, moi, j'ai appris qu'être directeur, c'était d'anticiper, de pouvoir prévoir, de pouvoir faire des projets. Et au fond, ce qui est en train de se passer, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit les crises budgétaires, que ce soit là, ça ne nous permet plus de nous projeter. Donc c'est une chose très douloureuse. Et au fond, est-ce qu'on peut essayer de faire avec cette donnée-là ? Je ne sais pas si on peut, mais peut-être que c'est une proposition. Et du coup, on ne tient pas, on est.
Justement, dans ce contexte, est-ce que Thibaut, ça vous est déjà arrivé à changer de métier ?
Alors, forcément, je me suis déjà posé la question, mais non. En fait, je ne pourrais pas. En fait, j'en ai trop besoin. Je suis assez d'accord avec Hortense sur le fait de tenir. Je crois qu'il faut aussi accepter de pouvoir tomber, en fait, aussi. Si possible, en étant accompagné, en n'étant pas abandonné. Mais on doit accepter de pouvoir aussi tomber. Alors, je ne dis pas tomber puis tout abandonner, mais quand même, on a le droit, en fait. On a le droit de faillir, on a le droit de tomber, en fait. Et je crois que pour peut-être se relever, pour pouvoir tenir debout, ou alors se remettre debout, ou être... il faut accepter que sans culpabilité, on a le droit de tomber. Après, sur toutes ces questions de coupes budgétaires, ça nous touche tous, les artistes aussi, que ce soit les acteurs, les actrices, les metteurs en scène, les directeurs de lieux, les compagnies. Enfin, c'est d'une violence extrême. Enfin, quand même, ce qui se passe, c'est urgent que quelque chose change. Mais bon, c'est très concret, même en termes de subventions. Je veux dire, nous, on le vit de manière très concrète là en ce moment. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'aide, beaucoup moins de possibilités, donc beaucoup moins aussi, malgré tout, et c'est concret, mais de salaire. Et donc, ça empathie sur les créations, sur la possibilité de rêver plus. Voilà, c'est violent quand même ce qui se passe.
D'ailleurs, pour rebondir ce que vous dites, il y aura une manifestation pour dénoncer toutes ces coupes budgétaires demain, lundi 13 juillet à 18h sur la place du Palais des Papes à Avignon. Donc, on compte sur vous. C'est super important.
Oui, bien sûr.
On va maintenant écouter le reportage d'Inès et de Rachel qui sont allés à la rencontre d'habitants dans le quartier de Champfleury à Avignon.
1, 2, 1, 2, 1, 2.
Comment vous vous sentez là actuellement dans ce monde par rapport à toute l'actualité qu'on peut recevoir, les informations, tout ça?
Je fais pas attention, je vis ma vie tranquille. Faut vivre au jour le jour. Voilà. Sinon, si on regarde trop les infos, trop d'infos, tue les infos. Voilà, c'est pas bon.
Comment tu te sens dans ce monde ? Est-ce que tu te sens à ta place ?
Ouais, je me sens à ma place, je me sens bien, avec mes amis. Ouais.
Est-ce que si je te dis santé mentale, ça t'évoque quelque chose ?
si on se sent bien dans sa peau, bien dans sa tête.
Moi, j'aime bien faire 7, faire 7, faire 7.
Bon, est-ce que... toi, t'aimes le foot, vous devez mettre sur le foot, du coup. Est-ce que, pour vous, le foot, c'est un moyen pour vous sentir mieux, peut-être, quand il y a des choses...
Oui.
Ça nous permet de s'amuser en faisant des efforts, et voilà, quoi.
Quand tu joues au foot, tu sens comme libre.
Le football, oui. C'est un moyen de s'évacuer dans la tristesse et la colère. C'est vrai.
Ouais. Comment vous vous sentez, là, actuellement, dans ce monde ?
Ben, en vrai, plutôt bien. Et après, en vrai, quand on a une famille, on va dire, un peu cool, un peu chill, on va dire, c'est beaucoup plus simple. Après, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont des parents stricts, des familles strictes et tout, et pour eux, c'est beaucoup plus compliqué. Même des filles qui sont beaucoup plus âgées, par exemple 22 ans ou quoi, leurs parents, ils vont être beaucoup plus stricts avec eux. Du coup, ça impacte, on va dire, un peu leur vie et comment ils se sentent. Bah, du coup, comparé à moi, je me sens bien, parce que je me dis que je suis chanceuse par rapport à d'autres, et du coup, ça en joue aussi, c'est tout.
Pour toi, l'entourage, c'est important pour aller bien.
Ouais, de fou.
Bah, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas de plus.
Merci. Comment vous vous sentez dans ce monde, bah, déjà au vu de l'actualité, au vu de...
Très, très mal. Très, très mal. Je suis angoissée. J'ai mon dos qui me lâche de plus en plus souvent. C'est l'angoisse. On le sent quand je parle. J'arrive mal. J'ai pas connu tout ça. J'ai pas connu de guerre encore. J'ai 69 ans. J'ai pas connu de guerre. Voilà.
Ah ouais, vous le ressentez physiquement aussi ?
Oui. Mais il n'y a pas que moi. Oui. Ça me fait peur. Oui. Je me lève avec l'angoisse. J'ai pas envie de sortir du lit. C'est bizarre. Ouais. Je suis pas comme quand j'étais plus jeune, très optimale. Ben non. Voilà ce que ça m'a fait.
Et selon vous, qu'est-ce qui vous manque pour se sentir mieux, pour avoir une meilleure paix mentale, une meilleure santé mentale ?
Ben déjà, comme on vit, qu'on n'a plus d'argent pour rien, ça, c'est déjà une angoisse. Et la guerre qui nous pèse dessus, ça me fait peur. Voilà. Quand je travaillais, c'était beaucoup mieux. Ça, c'est sûr. Oui.
Et du coup, vous, Hortense, qu'est-ce qui vous manque pour avoir une bonne santé mentale et vous sentir bien ? Dure question.
Je crois que ce qui me manque, c'est des perspectives collectives. Et ce que je cherche, ce que j'essaye de chercher, et beaucoup à travers l'art, en fait, aussi, à travers les lectures, à travers d'aller voir des spectacles, des films, parler des spectacles, des films avec des gens. C'est peut-être de renouveler des imaginaires pour pouvoir dire, en fait, c'est quoi les nouvelles perspectives ? Et c'est comme si on avait besoin d'un carburant. Donc, des fois, moi, ce qui me fait peur, c'est d'avoir l'impression que peut-être je vais être sèche. Enfin, j'ai plus l'énergie, quoi. Mais bon, j'ai beaucoup d'énergie, alors ça c'est super. Et du coup, c'est un don, quoi, voilà. Je sais pas, la vie m'a donné beaucoup d'énergie. Mais c'est ça qui me fait peur, parce que j'ai l'impression qu'on doit avoir tous beaucoup d'énergie, alors qu'on est tous épuisés, comme vous disiez. Il faut qu'on retrouve énormément d'énergie, parce qu'il faut ouvrir des perspectives collectives.
Et vous, Thibaut ?
Ma santé mentale. non, mais déjà, j'aimerais avoir la solution, parce qu'il y a plein de moments où... je sais pas, en fait. Je dirais que ce qui m'aide... Le plus souvent, c'est de me rattacher à mon désir, à ma nécessité. Effectivement, je peux avoir souvent l'angoisse de ne plus en avoir, du désir. Parce que c'est, voilà, tout ça, ce monde qui nous épuise, fatigue vraiment. Mais les moments où j'arrive à retrouver cette force, c'est effectivement dans le lien, en fait. Et dans, j'espère, pouvoir établir un lien de confiance les uns avec les autres. C'est ce qui est le plus important, et notamment dans le travail. Voilà, c'est ce rapport à la confiance. Et c'est très difficile, en fait, d'être dans de la confiance. Et ce qui me donne voilà, de l'énergie, c'est ça. C'est ce rapport à la nécessité de faire les choses. Vous me posiez la question aussi tout à l'heure sur est-ce que je me pose la question d'arrêter ce métier. Pour peut-être un peu compléter ça, effectivement, je me la suis posée et je vous promets que j'y ai apporté la réponse, mais je ne l'arrêterai jamais. Enfin, ou alors si je suis forcé et qu'on ne veut plus de moi ou que j'ai plus d'occasion de le pratiquer, mais... J'en ai trop besoin, c'est une nécessité. En fait, je crois que je ne peux pas vivre sans ça. Et donc, bah, ma santé mentale, voilà, c'est, et s'entourer aussi de gens en qui on a confiance et de retenir le bon aussi. Ça fait quand même du bien de retenir ce qu'il y a de bon.
Vous raccrochez en fait à ce qui vous fait du bien au quotidien.
Oui, oui, c'est pas toujours simple, mais oui. Et puis, malgré tout, de pouvoir créer. Alors, ça devient plus difficile dans les conditions, mais quand on en a besoin, il y a quelque chose qui se passe et ça aide, quoi.
Non, je voulais juste rebondir parce que le mot confiance, je pense qu'il est essentiel. Mmh. Et au fond, on doit essayer dans une des perspectives, c'est de construire une société de confiance. Et vraiment, tout conduit à aujourd'hui être dans la méfiance. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à renverser.
Mmh. Donc, on arrive à la fin de la première partie de l'émission. Donc, Lou et Alpha, ils vont quitter le plateau. Merci beaucoup d'avoir cette
émission. Merci
à vous.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Donc c'est le moment dans notre émission pour la pause musicale. Je laisse donc la main à Isa qui va nous présenter la musicienne d'aujourd'hui.
Merci Soma. Alors nous recevons ce soir Léopoldine Hummel, fondatrice du trio Léopoldine HH, avec Charles Marty et Maxime Carzanet. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous venez de Strasbourg et vous êtes une artiste multi-instrumentiste à la croisée de la musique et du théâtre, reprenant des textes d'auteurs dans vos créations. Vous n'êtes pas étrangère au Festival d'Avignon puisque vous avez présenté votre spectacle musical « On voudrait revivre » lors des éditions de 2019 à 2022. Léopoldine, tous ensemble ce soir, on se pose la question de comment tenir debout dans un monde qui épuise. Ce monde peut-il parfois entraver votre processus créatif ?
Oui, merci, bien sûr. Et je crois que ce qui a été dit, c'est très beau. C'est-à-dire que parfois, on est vraiment dans une sorte de tétanie face au monde qu'on a en face de nous. Et en fait, ça vient... Je sais pas, ce qui m'est venu en vous entendant, c'est par exemple les aventures collectives comme Radio Debout, où Making Ways était là. Voilà. Et, en fait, c'est des manières de se réunir et de sentir que le collectif peut vraiment nous sortir de la tétanie individuelle. Je crois que ça m'aide beaucoup. Les penseurs aussi m'aident beaucoup. Et je passe beaucoup de temps avec une œuvre en ce moment qui s'appelle « La folie Elisa » de Gwenaëlle Aubry, où elle accueille dans ce roman quatre femmes qui tombent, n'arrêtent pas de tomber. Et en fait, elle les accueille dans une sorte de maison mentale, un peu à la Louise Bourgeois. Elle met, voilà, c'est son espace mental. Ces quatre personnages arrivent et disent « Je n'y arrive plus, j'arrête pas de tomber ». Et comment on s'en sort avec ça ? Et elle reprend cette phrase d'Adorno qui dit « Comment renvoyer au monde la violence qu'il nous fait ?» avec l'art. Et ces quatre femmes-là, elles disent « Je n'y arrive plus. Tout s'écroule. J'ai essayé de sculpter la violence. J'ai essayé, mais tout s'effondre. » Elles cassent leurs œuvres, etc. Et elles vont trouver à la fin du bouquin, effectivement, c'est dans le collectif et dans une grande marche salvatrice qu'elles vont trouver l'énergie de retourner dans le monde. Ça, c'est fabuleux, en fait, de trouver des œuvres comme ça, qui nous tiennent debout. Vraiment, moi, je dis souvent que les livres me tiennent debout, c'est vrai. Il y a aussi un penseur, et je sais, Hortense Archimbaud, que vous le connaissez bien parce que j'ai écouté une conférence qui est passée chez vous, Olivier Hamant, qui dit « Quelle planète on laisse aux générations suivantes qui arrivent et quelle génération suivante on laisse à la planète aussi ?» Et c'est une vraie réflexion aussi, ça. Je trouve que c'est hyper beau. Et quand je vois ces initiatives-là, comme cette radio, voilà, ça me bouleverse. Je trouve ça très beau, en fait. C'est ça qui va faire qu'on va changer quelque chose, non ?
Je suis totalement d'accord. Et dans quelle mesure l'art peut-il être un moyen de tenir dans ce monde pour vous ?
Bah voilà, bah j'ai un peu répondu à la question déjà dans ma première réponse. En fait, pareil, j'aime beaucoup aussi, depuis le début de l'émission, on dit autour de la table « je ne sais pas ». Je ne sais pas, mais c'est en brassant du collectif et en lisant, en allant voir des œuvres. Hier, j'ai vu Alice Heimburger et sa pianiste incroyable qui ont porté comme ça Elfriede Jelinek, les suppliantes. Et c'était extraordinaire. Ça nous a mis des supercutes. On était tous complètement dévastés et en même temps fébriles et en même temps à se dire « Ok, c'est maintenant qu'on agit. » Evry Serre au piano, voilà. Donc je crois que les œuvres vont nous permettre d'être debout et non pas de tenir, mais d'être debout.
Merci beaucoup. Tout de suite, Léopoldine HH avec Frappe le cœur. C'est à vous de jouer.
C'est une chanson de Colette Mani qui, elle aussi, est une chanteuse-penseuse. Tchekhov, Musset, Jésus-Christ, Dostoïevski.
On ne peut rien comprendre en ce monde. Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce qu'une carotte ? Une carotte est une carotte et l'on ne sait rien d'autre. Frappe ton cœur, c'est là qu'est le génie. Aime vraiment ton prochain comme toi-même. C'est une vérité qu'on nous a transmise, mais ça n'a pas pris. Tant d'enfants sont morts, tant d'hommes devenus fous. On ne peut être heureux que s'il est malheureux, souffrant en silence. Frappe ton cœur, c'est là qu'est le génie. Aime vraiment ton prochain comme toi-même. C'est une vérité qu'on nous a transmise, mais ça ça n'a pas pris. Tu n'auras la joie, tu n'auras le bonheur, ni dans l'argent, ni dans l'amour, mais dans la vérité. Oh, frappe ton cœur, c'est là qu'est le génie. Aime vraiment ton prochain comme toi-même. C'est une vérité qu'on nous a transmise, mais ça n'a pas pris. Frappe ton cœur, c'est là qu'est le génie.
Oui. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Léopoldine HH, c'était un super moment.
Merci
de l'avoir partagé avec nous.
Avec joie, merci.
Merci à toi Isaac.
Making Waves Avignon présente
À la jeunesse
les micros.
On a Isaac avec un K.
Hello.
Léa.
Hello.
Et Noah.
Salut.
Qui nous ont rejoints au plateau. Salut.
Chers invités, chers publics, j'ai passé une sacrée journée de merde, ah, comme ça c'est dit. Pour commencer, on a crevé les pneus de ma trottinette, du coup j'ai dû venir à pattes ce matin. Puis ce midi, quand j'étais en train de manger, un pigeon m'a chié dessus de juste là, là. Donc j'ai dû retourner à pattes à ma voiture pour me changer, puis revenir ici à pied. C'est difficile de tenir debout après ça. C'est dans ces moments-là que je me dis heureusement que je travaille dans une équipe super cool, avec que des gens formidables, inspirants, à l'écoute, qui effacent partiellement ma mauvaise humeur, parce que tel Hulk, je suis toujours un peu en colère. On constate malheureusement que de plus en plus de lieux de rencontres où des gens totalement différents pourraient partager la même expérience que moi ferment en France. Alors comment peut-on, chers invités, éviter la fermeture de ces espaces qui rassemblent ?
En venant les habiter.
Pas mieux.
Waouh, ça c'était une réponse concise, simple et efficace. Justement, là où le service public se retire, la société se fragmente. Le monde du spectacle vient de se faire amputer d'une jambe, vous en parliez tout à l'heure. Et moi, j'avais une question pour vous Thibaut, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on avait le droit de tomber. Mais comment est-ce qu'on se relève ?
Ça, je sais pas, j'ai peut-être pas la solution du tout, mais quand je dis le droit de tomber, c'est parce qu'en fait, tout nous pousse à réussir, à être dans la performance. Bon, ça, je dis des poncifs, mais c'est vrai, le monde nous pousse à ça, à réussir, à montrer qu'on est fort, à montrer qu'on a tout compris, qu'on est intelligent, qu'on comprend les choses mieux que les autres. Et en fait, je crois que s'octroyer le droit de tomber, ou de plonger, ou de couler, nous aide finalement, en touchant le fond, souvent. Vous savez, quand on entre dans une clinique psychiatrique, il est probable souvent qu'on puisse vous dire il faut accepter de toucher le fond pour pouvoir peut-être mieux se relever. Parce que sinon, on tient, on est en prise, on lâche pas prise, et puis donc on tient. Voilà, justement, on tient au lieu d'être, et il faut accepter. Alors ça fait peur, c'est effrayant. Si on en revient à Hamlet, c'est forcément une de ces questions-là, c'est-à-dire est-ce qu'on est prêt à continuer comme ça avec les mots qui sont les nôtres, ou est-ce qu'on risque quelque chose d'inconnu, mais peut-être que ce sera pire. C'est effrayant, mais peut-être nécessaire. Et voilà, je trouve qu'on observe souvent le fait de culpabiliser d'aller mal, de culpabiliser de faillir, de culpabiliser de ne pas réussir. Eh bien, en fait, on ne fait que parler du fait d'être, mais ça fait partie de la vie et c'est pas grave. Et puis on a le droit de dire « je vais mal ». Voilà.
La peur de l'échec, en fin de compte.
Oui, la peur de l'échec, la peur de... Oui, exactement.
Alors, j'ai chopé tout à l'heure, juste à l'entrée, un petit tract de la CGT qui dit « Intermittent attaqué, aide à l'emploi supprimé, fermeture de nombreux lieux. Bref, ce n'est plus une crise, c'est une hécatombe. Mobilisons-nous. Radalala. » C'est dur, parce que c'est vrai que se mobiliser ou ne pas se mobiliser, telle est la question. Ça fait super longtemps qu'il y a des manifs qui sont organisés, que les gens se mobilisent, en fait, pour toutes ces raisons, pour plein de choses. Et qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, aujourd'hui de plus pour, peut-être, pour que les choses, elles changent enfin, qu'elles changent vraiment ?
J'ai l'impression que, en fait, on n'arrive pas à vraiment croire qu'on peut en finir avec le capitalisme. Et donc, au fond, si on commence par essayer de nommer les choses, peut-être que c'est un début. Et puis se dire, peut-être que c'est possible de sortir du capitalisme.
On a des grosses chaînes, quoi.
C'est très compliqué parce que, d'une certaine manière, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure dans la question de la déconstruction. Et au fond, ce système, on voit bien qu'il ne fonctionne pas. Mais comme on a l'impression qu'il n'y a pas d'alternative, moi, je n'en ai pas d'alternative. Quand je dis ça, je ne suis pas fierotte. Mais au fond, moi, j'ai l'impression que ce qu'il faut, c'est qu'on essaye de chercher des alternatives. et qu'on continue de se mobiliser, parce que quand même, des fois, la mobilisation, elle paye, et de se dire qu'on est attaché au service public. Non, en France, on ne veut pas juste moins payer d'impôts. Moi, je suis très contente de payer des impôts, et je pense qu'il y a plein de gens autour de moi qui sont contents de payer des impôts, parce qu'on sait à quoi ça peut servir. Au fond, la question, et puis qu'on puisse aussi avoir un débat démocratique pour dire à quoi vont servir nos impôts. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour nous? Au fond, il y a plein de sujets dont on doit se réemparer. Et d'une certaine manière, peut-être qu'on a une société qui a délaissé des questions, les questions du social, les questions du soin, les questions du politique à des spécialistes. Or, c'est des questions qui sont bien sûr absolument magnifiquement menées par des spécialistes, mais qui sont des questions qui doivent nous concerner tous. Et il faut, j'ai l'impression, essayer de se réapproprier toutes ces questions-là et de se dire que c'est les nôtres et que quand même, il y a tout le temps des petites musiques que la démocratisation culturelle aurait échoué, que la démocratie n'est plus intéressante, que, etc. Mais en fait, non. La démocratie est encore un endroit intéressant. La démocratisation culturelle n'a pas échoué. Les artistes continuent de nous donner des nouvelles représentations du monde. Et si on essaye de garder notre vivacité, notre intelligence, notre sens du collectif, on peut essayer de proposer des choses. Après, c'est évident que nos petites machines magnifiques, qui sont extrêmement précieuses, et quand on les perd, on a l'impression d'avoir disparu. C'est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps, et que ce temps-là, il faut qu'on se méfie de le garder aussi pour pouvoir justement réfléchir, voir les feuilles tomber, réparer sa trottinette, enfin voilà.
Merci beaucoup.
Bah, Alain Damasio, il en parlait quand il est venu sur le plateau, du coup, hier. Il faudrait qu'on fasse l'effort d'abandonner tous ces espaces numériques pour essayer de faire groupe, pas sur un écran digital, mais vraiment dans la réalité. Et donc, ça rejoint exactement ce que vous disiez.
Bah ça, c'est les théâtres, en fait.
Oui,
ça qui est génial.
Ouais, justement, les lieux culturels, c'est vraiment un lieu où on se rassemble, et c'est super. Et vous, Thibaut, vous avez quelque chose à ajouter ou...
Non, mais effectivement, c'est, je veux dire, ce poison du numérique, parce que, franchement, moi, je le considère comme tel dans ma vie au quotidien, mais pour tout le monde. Ce que je peux rajouter, c'est que, par exemple, là, actuellement, nous, on est dans le spectacle itinérant du Festival d'Avignon, avec très peu de technique, au contact des gens, on va vers les gens. Et moi, j'ai vraiment énormément besoin de ça. Je veux dire, je suis ravi de pouvoir défendre cette forme-là. Et aussi d'un théâtre, mais dans le sens noble du terme, un théâtre pauvre, qui, j'espère, tente d'aller vers quelque chose d'essentiel, quelle que soit la forme. Mais il y a quelque chose qui me plaît. Je veux dire, la sueur, le sang, les larmes, là, en face, avec les gens et en direct. Et puis, voilà, moi, je pense que, pour répondre aussi peut-être à la question aussi... Oui, je crois qu'il faut continuer à se mobiliser. Il ne faut pas sortir du jeu, il ne faut pas se résigner, parce que sinon, on arrête tout. Je n'ai pas vraiment les solutions, plus que de manifester, plus que peut-être des grèves. Parce que je me rappelle, en 2003, moi, j'étais allongé, je ne comprenais rien en plus. Hein. Je sortais du Conservatoire d'Avignon, j'étais élève, je ne comprenais rien du tout à tout ça. Et j'étais allongé dans la rue, dans cette fameuse mobilisation de 2003. Donc ça fait un moment, en fait, évidemment, que ça existe, tout ça. Et ces combats ont quand même mené à certaines victoires. Mais non, il faut se mobiliser, la manifestation de demain. Effectivement, il y a aussi, je crois qu'il y a une prise de parole ce soir dans la cour d'honneur. Donc voilà, c'est... Non, je crois qu'il faut continuer. Quoi.
Léa va nous emmener dans une société dystopique et nous présenter un de ses textes de science-fiction. Léa, on t'écoute.
À la jeunesse, les micros.
Les micros. Ils sont à qui?
Ils sont à qui?
Ils sont à nous.
Je mets doucement ma parka transparente alors que grand-père dort dans le fauteuil face à moi. Les yeux semi-ouverts, il marmonne. Ne sors pas, c'est dangereux. Je ferai attention, ils ont relevé l'alerte orange ce matin. Il y aura moins d'éclairs que la semaine dernière. Je tourne la poignée de l'entrée, le vent froid envahit ma veste. En sortant, je rabats ma capuche sur ma tête. La pluie tombe, toujours à plein régime. Bien que je n'ai jamais connu un ciel clair, je ressens toujours une pince au cœur de voir que rien n'a jamais changé depuis la dernière fois que je suis sortie. Sous ce ciel, les toits tentent, en vain, de parer le tonnerre qui frappe de façon irrégulière sur les immeubles. Je commence à marcher sur le trottoir, mouillé et boueux. J'entends une sirène à double ton qui s'approche de plus en plus. L'ambulance passe à côté de moi et plonge dans la rue pentue. Elle s'arrête à l'intersection plus bas. Mes mains deviennent moites, je sais ce qui se passe. Quand j'arrive à son niveau, je m'immobilise. J'avais pensé juste, des ambulanciers courent de partout. Des corps inanimés sont extraits d'une maison pavillonnaire. Au loin, un camion de soldats débarque. Ils observent la scène, de la même manière qu'ils observaient le corps de mes parents quand ils ont été emmenés. Un officier me voit sur le trottoir. Mon sang se glace et je tourne les talons pour reprendre ma route. À chaque croisée de regard avec ces officiers, je ne pouvais m'empêcher de cacher mon visage dans ma veste et tirer encore plus ma capuche. Je tourne au coin de la rue. Je réalise que mon ventre se dénoue.
Mon corps ne peut pas ignorer ces atrocités, alors même qu'elles sont si courantes. Depuis cette nuit-là, je ne peux plus regarder ce soldat dans les yeux sans me sentir en danger. Je marche. Je marche. L'humidité de l'air matifie chaque surface. Tout finit par perdre son éclat. Les reflets ne reflètent plus, les lumières ne brillent plus. Même les flaques de pluie constantes ne reflètent plus rien à cause du rugissement du tonnerre. En tournant dans une énième rue, je commence à entendre ce bruit si familier et réconfortant. Je vois à quelques mètres des lumières violettes. Ces lumières m'emmènent à travers des ruelles enchevêtrées les unes sur les autres. Le bruit devient un léger bourdonnement dans les petites rues. Les lumières me guident. À chaque lueur que je passe, je distingue des rythmes dans ce bourdonnement. Quand je vois deux projecteurs face au début d'un passage, je distingue des voix au milieu du rythme. Je traverse le portail de lumière et soudain, le bruit sourd de la pluie qui tombait sur ma parka s'arrête. Je lève la tête et je vois toujours le ciel gris mais éblouissant. Le clapotis de l'eau était constant, donc ne plus l'entendre ressemble à du silence, mais rien dans cette scène n'est silencieux. Mes oreilles vibrent aux instruments qui chantent aussi fort qu'ils le peuvent. Les voix que j'avais entendues se transformaient en cris. Tout le monde criait, riait. J'enlève ma parka, la plie et l'attache à la boucle de mon pantalon avec le petit mousqueton qui était cousu sous la capuche. Je sens l'air dans mes poumons, comme si je respirais pour la première fois depuis longtemps. Je sens la chaleur de la longue ruelle couverte. Je sens aussi le pétricore qui me donne l'impression que la pluie ne battait plus. Je rejoins la foule. On se serre tous les uns aux autres, comme des amis de longue date qui viennent d'apprendre que la mort est proche. On préfère fêter et chanter. Notre désespoir et notre peur d'être oubliés. Ne pas oublier. Ne pas oublier nos récits communs, ne pas oublier pourquoi nous sommes là. Ne pas perdre face à ces tragédies qui nous unissent. Ne pas oublier. 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 Ne pas oublier.
Merci Léa. Est-ce que tu aurais une question pour nous inviter ?
Oui, merci Thomas. Hortense, le théâtre, c'est un lieu de rencontre très collectif. On en parlait tout à l'heure. Vous qui travaillez quotidiennement avec des jeunes, est-ce que ça peut encore nous aider, la jeunesse, à lancer des révolutions ?
En fait, moi j'ai l'impression que le théâtre, c'est comme un monde entre le vrai monde et l'imaginaire. En fait, c'est comme une sorte de tiers-monde ou un monde parallèle et en même temps, on n'est pas complètement hors du monde et on n'est pas complètement dans le monde et en même temps, on est traversé par le monde. Enfin, c'est une sorte d'espace comme ça. En tout cas, pour moi, dans ma vie, c'est ça. Et au fond, j'ai été voir un spectacle quand j'avais 9 ans et je sais juste qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'avais envie d'être dans un théâtre. Je savais pas trop ce que j'allais faire, et après ça s'est fait comme ça. Mais donc j'ai une relation au théâtre qui est très très forte, et de toute façon je sais que les théâtres, ils existeront toujours, parce qu'il y a des gens comme moi qui en ont besoin. Et donc on va se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour pouvoir continuer à avoir ces types de lieux, et je trouve que c'est important cette question d'être dans le monde et un peu hors du monde. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, en tout cas il y a cette question, on n'est pas dans l'irréel. On n'est pas dans le virtuel, on est là, on est dans la présence, dans l'être, et en même temps, on est dans une sorte d'espace un peu à part, un peu parenthèse, où on peut essayer d'être chacun ce qu'on est. Voilà, je dirais c'est ça la définition.
C'est un moyen de prendre du recul aussi. Enfin, moi, je me souviens le nombre de fois où je suis sortie d'une salle de théâtre ou de cinéma aussi, où ça m'a remis en question plein de choses dans ma vie. Parce que ça fait, comme vous dites, réel et imaginaire en même temps. Donc je suis d'accord avec vous.
Ouais, alors, est-ce que ça fait la révolution ? On ne sait pas, quoi. C'est un peu comme les rêves, des rêves collectifs.
C'est très bien aussi de rêver collectivement.
Je suis plutôt d'accord avec ce que tu as dit. Moi, je me souviens, la première scène de théâtre que j'ai regardée, c'était une scène de théâtre au collège, je crois, et c'était Antigone. Et mine de rien, bon, même si ce n'est pas son père, mais c'est que son oncle, bah, ça m'a fait... réfléchir à moi des relations que j'ai avec certaines personnes, donc mon père, c'est un peu... Mais enfin, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, du coup. Le théâtre aide énormément certaines personnes mentalement, mais c'est un peu un refuge pour eux. De ce fait, pour pallier à la baisse colossale des budgets, les cours de théâtre ne devraient-ils pas être financés et remboursés par la Sécurité sociale ?
Ah oui, ben ça serait l'idée même de prescrire des séances de théâtre, en fait, même des représentations, d'assister à des représentations, etc. Je pense que c'était une des revendications qu'on avait... porté quand les lieux étaient fermés pendant le Covid. En fait, on avait revendiqué le fait qu'on devrait... Parce que vous savez, il y avait certains qui avaient des prescriptions pour pouvoir aller à la piscine, même si les piscines étaient fermées. Et on avait revendiqué cette prescription de pouvoir avoir des prescriptions de théâtre, même si les théâtres étaient fermés. Bon, ça n'a pas vraiment marché, mais
C'était un début.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Thibault? Vous aimeriez bien des séances remboursées par la Sécu?
Bah oui, si c'est possible, oui, bien sûr. Je crois que c'est hyper important. Non, mais après, je ne sais pas si c'est la solution, mais en tout cas, aller au théâtre, oui, ça fait du bien quand même. Ça fait beaucoup de bien, quoi.
Mais pour être sérieux, c'est aussi la question du théâtre public. C'est-à-dire que d'une certaine manière, le théâtre, il est un peu remboursé par la Sécu déjà. Oui.
Moi, en tout cas, je sais que ça me ferait bien marrer de voir sur mon ordonnance deux boîtes d'eau de Doliprane et une séance de théâtre. Hortense, vous et moi, on est réputés pour notre bagou et notre teigne. À titre personnel, elle est là car la vie m'a très vite mis un coup de pression. Et entre le travail, la famille et tout le reste, j'ai compris qu'aujourd'hui, le monde, c'est vraiment de la merde. Alors, pour tenir debout, je pousse un petit coup de gueule contre cette société qui te force à être quelqu'un que t'as pas envie d'être au fond. Je tape cette putain de table. Bon, pas fort, parce que sinon tu vas la casser. Et vous, Hortense, pour finir notre émission, est-ce que vous avez un coup de gueule ou un message à faire passer? L'antenne est à vous, on vous écoute.
Ah là, beaucoup de pression. C'est là, trop de pression, là.
Révolution.
On vous regarde tous.
Et moi, j'ai envie de dire, il faut qu'on s'aime. Je suis désolée, hein, non, mais j'ai 30 ans de plus que vous, je pense.
C'est un coup de gueule très positif.
Voilà, là, c'est la sagesse qui arrive. Un coup de gueule, Thibault?
Pareil, enfin, c'est vrai que j'ai plus envie qu'on soit dans des questions d'amour, parler de tenir debout dans un monde qui épuise, mais tenir debout, je pense pas que ce soit par exemple une affaire de force, mais peut-être plus de sincérité. Essayons de baisser un peu plus la garde peut-être, voilà. Si j'ai un coup de gueule à dire, c'est baissons un peu plus la garde, faisons un peu plus attention les uns aux autres, prenons soin. Alors c'est banal, mais c'est de l'amour aussi, et je crois qu'on en a besoin. Oui, voilà, baissons la garde.
Mais est-ce qu'on peut pas rallier les deux? Prendre soin des gens et en même temps aimer et en même temps...
Se battre et faire des coups de gueule et tout ça, ouais. Bien sûr. Mais c'est vrai que je crois que j'ai moins de colère en ce moment, même si tout pousse à ça, mais je crois que la solution, effectivement... Vous voyez, par exemple, dans Hamlet, c'est toute une question. C'est-à-dire que la question, le père le pousse à se venger. Bon, faut-il se venger ou pas? Est-ce que c'est une belle notion? C'est pour ça qu'un coup de gueule, comme dire, en fait, peut-être essayons de passer à autre chose en douceur et en bienveillance et en confiance, comme on le disait tout à l'heure. Ouais, c'est peut-être mon coup de gueule, mais je sais pas si on peut faire les deux ensemble. Oui, j'imagine.
Et puis surtout qu'Hamlet, ça lui réussit pas de se venger, finalement.
Eh bien non. Et voilà, c'est une belle leçon, non?
Bah, on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci Hortense, merci Thibault d'avoir discuté avec nous. Merci à Alpha, Pamplune, Lou, Sarah, Isaac avec un C, Isaac avec un K, à Noah et Léa.
Et Soma.
Oui, bah merci à moi-même. Merci à Inès et Rachel pour le reportage. Merci à Rachel d'avoir assuré aussi la technique. Merci à toutes celles et ceux qui étaient avec nous au Cloître Saint-Louis aujourd'hui. Et merci à nos auditeurs et auditrices. On se retrouve après-demain, donc mardi, pour la 4e émission de À la jeunesse, les micros, où on se demandera qui a le droit d'être en sécurité. On parlera avec Olga Diatel et Sépi Desfarsi de guerre, d'exil, de violence d'État et encore d'asile. Bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve mardi.
Merci.
Merci.
À la jeunesse,
les micros, les micros.
C'était Making Waves Avignon. À la jeunesse, les micros. Une série d'émissions enregistrées en public en juillet 2026 lors de la 80e édition du Festival d'Avignon. Un projet et une production de Making Waves. Mais...